passe de...
Aujourd'hui, on vous emmène en banlieue parisienne. On est dans le sud-est, dans le département du Val-de-Marne, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Maurice. On a rendez-vous au domicile de notre invité. Et comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent.
La conversation.
Oui.
Oui, bonjour, Bertrand, la Radio Suisse.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien ?
Ça va.
La conversation. La conversation. Bertrand Bichot.
Bertrand Bichot.
Alexandre Lemierre.
Alexandre Lemierre.
C'est ça que je crois qui est intéressant dans les conversations, c'est qu'elles puissent vous amener une perspective nouvelle sur la vie et le monde et vous-même.
Woody Allen a dit un jour, « Si mes films rendent ne serait-ce qu'une personne déprimée, je pourrais dire que j'ai fait mon travail. » Et Dieu sait, le concernant comment ne pas citer Dieu, que c'est un sujet que l'acteur-réalisateur connaît bien, tant les cabinets de psy ont ponctué sa vie presque autant qu'ils se sont invités dans sa filmographie. Christophe André, lui, aurait pu faire la déclaration inverse, tant son travail depuis une quarantaine d'années est d'accompagner et de soulager ses patients de leur mal-être. Médecin psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs, il se forma un temps à l'hypnose, fut tenté par l'obstétrique, fit un passage par les thérapies familiales, avant de se consacrer définitivement à la psychiatrie. Mais à la psychiatrie humaniste. Son mémoire, il le consacra à l'astrologie ou comment garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. En thérapie, explique-t-il, je blague souvent avec mes patients en leur disant « J'ai une bonne nouvelle, le monde sans souci dont vous rêvez existe, et une mauvaise, ça s'appelle le paradis et ce n'est pas pour tout de suite. » En attendant, on va essayer avec ce monde-ci qui s'appelle la vie. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le très beau sur la méditation, médité jour après jour, il est le grand défenseur de cette pratique sous forme laïque à l'hôpital. Ces livres sont autant de clés pour déverrouiller nos problématiques émotionnelles, chacun d'entre eux contribuant à ouvrir un peu plus grande la porte menant à une vie de pleine conscience, de sérénité et de bonheur. De quoi en revenir à Woody Allen quand il affirme avec conviction son incontestable « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Christophe André, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, aujourd'hui ça va bien, à cet instant, c'est parfait. Oui.
Merci de nous recevoir chez vous. On est dans votre salon.
Oui, absolument.
Une grande pièce, pleine de vie, avec beaucoup de...
De désordre.
Non, beaucoup de vie, au contraire, un piano derrière vous. Un piano électrique.
Oui. Et puis il y a un accordéon que vous pouvez apercevoir derrière le fauteuil rose.
Il est un peu caché. Oui, moins fier de l'accordéon peut-être.
Non, je ne sais pas pourquoi. Non, parfois il trône, au contraire. Ça dépend
vous en jouez de l'accordéon.
Oui. J'aime beaucoup l'accordéon. C'est le piano du pauvre. On appelle ça le piano du pauvre en France. Et c'est mes racines populaires certainement qui parlent quand je joue de cet instrument.
Et vous jouez quoi?
Alors, je ne joue pas du musette. Tout le monde associe l'accordéon au musette. Moi, j'aime beaucoup l'accordéon Kletschmer d'Europe de l'Est. J'aime beaucoup les vieux airs folkloriques, l'accordéon diatonique, qui est un accordéon avec une tonalité un peu plus primitive, je dirais, que l'accordéon musette, le chromatique. Et voilà, c'est le folklore, moi, qui m'intéresse, la musique populaire, véritablement.
Vous êtes mélomane ?
Eh bien, je ne sais pas.
C'est joué une chaîne ici derrière vous. Et c'est vrai que c'est rare de voir encore des chaînes.
Ah, elle est très vieille, vous savez, cette chaîne.
Des cassettes.
C'est pas compliqué. Je l'ai achetée en 1980 avec mon premier salaire d'interne. À l'époque, c'était du haut de gamme. Et vous voyez, elle a traversé les ans.
Elle fonctionne encore.
Et les enceintes sont des très bonnes enceintes. Tous les copains qui s'y connaissent en hi-fi, quand ils viennent, me disent « Le jour où tu veux t'en débarrasser, je les prends. » Je ne sais pas si pour autant je mérite le titre de mélomane, mais je crois que beaucoup de personnes aiment la musique et nous en faisons partie ici.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Derrière moi en arrivant, j'ai vu une photo de Billie Holiday, encadrée. en face de la une de l'idée du jour de l'élection d'Obama, j'imagine.
Ouais, exactement.
Billie Holiday.
Ah, ben Billie Holiday, ça c'est ma femme qui est fan de Billie Holiday, qui adore les chanteuses de jazz en général et Billie Holiday en particulier. C'est elle qui m'a fait découvrir d'ailleurs tout son répertoire, toute sa vie, tous ses jazzmen et ses jazzwomen finalement ont eu des vies extrêmement endoloris la plupart du temps, compliqués à la fois parce qu'ils vivaient à une époque où le racisme était quand même prégnant aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de drogues qui circulaient, parce que la vie de musicien n'est pas toujours facile.
Et puis beaucoup de mauvaises rencontres pour Billie Holiday. Des hommes très nocifs,
toxiques. Ouais.
On est juste à côté du bois de Vincennes, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi d'habiter ici, la nature à proximité, c'est vraiment au bout de la rue.
Ouais, de pouvoir sortir de chez moi et marcher une heure ou deux dans, j'ose pas appeler ça la nature, c'est pas une vraie nature, c'est une nature domestiquée, mais quand même, beaucoup de verdure, beaucoup de petits oiseaux, quelques bestioles, il y a un point de relais pour oiseaux migrateurs au milieu du bois de Vincennes que peu de personnes connaissent, parce qu'il faut bien leur ficher la paix à ces pauvres oiseaux quand ils se reposent, qui est un endroit magnifique où je vais souvent me poser un petit peu à l'affût comme ça, mais sans fusil, pour voir passer ces toutes sortes d'oiseaux au printemps et à l'automne. Ouais.
C'est étonnant de noter comme votre timbre de voix et votre débit témoigne avec fidélité de ce qu'on peut appeler vos positions idéologiques. On y retrouve du calme, de la bienveillance, de la sérénité, des notions qu'on retrouve dans vos livres. Mmh. Est-ce que vous avez toujours eu cette voix ou elle s'est façonnée avec votre personnalité ?
Je n'en ai aucune idée. Je crois que, en tout cas, ce n'est pas un effort particulier, mais c'est sans doute venu d'abord de mon boulot. Je pense qu'intuitivement, quand on est soignant, on comprend rapidement que notre façon de parler peut avoir un effet apaisant ou stressant pour les gens qu'on a en face de nous. Donc comme les gens qui viennent me voir sont en général déjà suffisamment stressés comme ça, j'essaie de ne pas en rajouter. Sans doute aussi que ça me fait du bien de parler tranquillement, doucement. Vous savez, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, que par exemple, quand notre cerveau est heureux, ça fait sourire notre visage, mais aussi que lorsque nous sourions, ça rend un peu notre cerveau un peu plus heureux. Donc sans doute que parler tranquillement, doucement, m'apaise également, plutôt que de parler rapidement, de faire des gestes saccadés. Enfin, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose comme ça, parce que tout le monde me pose cette question, qui au début m'étonnait beaucoup, j'avais pas l'impression de parler si calmement que ça. Et il doit y avoir ce truc-là aussi.
Je vous propose d'écouter votre portrait sonore, signé Alexandre Lemierre.
In 1956, year of Cold War, America produces an answer for the future.
Ma ville, elle est rose. Mais ça, tu le sais déjà, je vais pas te dire toutes ces choses. Qu'on t'a dit tant de fois, je vais pas te parler des musées, la musique et de son art. Mais du type qui vend du shit, Arnaud Bernard.
De l'humanité sont déjà communistes.
Et ce n'est qu'un début.
La France aussi deviendra communiste.
C'est trop beau.
C'est la lutte finale contre nous et demain l'internationale sera le genre humain.
Dans les années 70, à la récré, on parlait du film qu'on avait vu la veille. On avait tous vu le même. Il y avait très peu de chaînes de télé. Et puis on lisait tous le même magazine. Tout le monde l'achetait ou l'empruntait à ses copains. C'était le magazine le plus novateur, le plus moderne. C'était Pif Gadget.
Toulousain ! J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de ces régimes.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour.
Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Nous parlons aujourd'hui du succès et de l'échec.
Rien ne paraît plus normal que la réussite. Elle est plutôt rare pourtant. Mais on l'accepte vite comme étant une chose due.
Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, avec une pêche et une forme.
Allez, tout le monde nous suit. On fait de poulet avec Bernard Tapie.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Ouais ! Challenge. Voilà, c'est un mot qui en France ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on a oublié qu'il existait.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Le système des classes préparatoires, ça met une telle pression aussi, elle voulait bien faire, elle voulait faire comme son père, et voilà.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Chaque année, ils sont 10 000 à venir consulter aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne, que ce soit seul ou accompagné.
Le burn-out qui est apparu, je veux dire, dans le paysage français il y a à peu près une vingtaine d'années, en tout cas de manière aussi massive, une dizaine d'années de manière aussi massive, a été vu pendant très longtemps uniquement, je vais dire, dans le champ social ou médiatique.
Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler des TCC, les thérapies cognitivo-comportementales.
Et Alexandre Jolien, donc, avez-vous trouvé cette liberté intérieure ?
Alors, comme épithète, je dirais que je suis un esclave en voie de libération et mon boulot, que j'espère joyeux et qu'il l'est pour le moment, c'est de se libérer des patients tristes pour aller toujours plus vers la solidarité, la légèreté qui n'est pas la supercérité, mais pas se laisser plomber et aller vers toujours plus d'amour de l'autre.
Mathieu Ricard, même question.
Alors ce chemin de la liberté est très long, mais ce qui compte, c'est le sentiment d'être dans la bonne direction.
La méditation est cette faculté d'appréhension totale de la globalité de la vie. De là naît l'action juste.
Waouh. quel résumé. Je suis très touché et très remué aussi par tous ces flashbacks que vous avez si bien agencés. C'est peut-être un peu énigmatique pour les gens qui nous écoutent.
Il y a beaucoup
de code. Ouais.
Vous êtes né à Montpellier, mais vous avez grandi à Toulouse.
Ouais.
On a entendu la chanson de Big Flo et Oli. Ouais. Le film Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes en référence à votre grand-père qui était médecin et communiste.
Et il n'était pas médecin, mais était très communiste. Oui, très très communiste. On allait aux fêtes du PC, on chantait effectivement l'international, on insultait un peu les curés, etc.
Ah oui,
oui, oui.
Pif Gadget, lecture de votre enfance, de toute une génération.
Et oui, puis Pif Gadget, c'est le descendant du journal des jeunesses communistes françaises, qui s'appelait Vaillant. Vraiment, donc, il y avait tout un tas de héros faisant régner la paix et la justice sur Terre. Hein. Docteur Justice, enfin bref, ça façonne beaucoup un cerveau, ces trucs-là.
L'hymne du Stade Toulousain, vous avez joué au rugby longtemps. J'aime les filles, un peu de votre jeunesse.
Voilà.
Voilà. Tout est dit. Cabrel, que vous aimez beaucoup, qui chantait La Corrida.
Ouais, et c'était une très belle chanson qui n'a jamais fait un tube sur les états d'âme d'un taureau de combat qui comprend pas quoi ce que fabriquent les gens à s'agiter autour de lui, le malheureux.
Vous étiez amateur de Corrida ?
Eh oui.
Vous l'êtes encore ?
C'est compliqué. Non, ça, après, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on aime beaucoup parce qu'on a baigné dedans. Donc, tout ce qui est corrida, rugby, foie gras, évidemment, en tant que gars du Sud-Ouest, voilà.
Les incontournables.
C'est incontournable. Et puis, peu à peu, quand même, les deux premiers, corrida et foie gras, ça m'a posé progressivement de plus en plus de problèmes, puisque la corrida, c'est quand même si c'est quelque chose de magnifique, symboliquement, esthétiquement, émotionnellement, c'est tout de même mettre à mort six animaux qui nous ont rien demandé pour notre plaisir, et donc ça pose des problèmes éthiques. Et le foie gras, c'est pareil, quoi. C'est délicieux le foie gras, mais on fait quand même subir une sacrée sale vie à ces pauvres oies, pour notre plaisir et pour un plaisir remplaçable. Donc ça, j'ai laissé tomber, même si, voilà, je reconnais que ça fait partie de mon histoire.
Le succès et l'échec, l'une de vos chroniques pour France Culture, la culture des winners symbolisée dans les années 80 par Bernard Tapie. Ah. On a entendu un reportage dans les coulisses de l'hôpital Sainte-Anne où vous avez travaillé, vous travaillez encore, vous consultez
encore.
Je
viens de prendre ma retraite, ah. Oui, je viens d'arrêter ma
jeune
carrière.
Jeune retraité.
Pas tant que ça, c'est l'âge légal, j'ai arrêté à 62 ans, pour tout un tas de raisons, mais pas parce que j'en avais marre. C'est un très beau métier qu'on peut continuer encore au-delà de la date de péremption.
On a entendu la voix du docteur Patrick Légeron avec qui vous avez écrit oui. La peur des autres, qui parlait oui. De la souffrance au travail, l'évocation des thérapies cognitivo-comportementales, la voix de vos comparses Mathieu Ricard et Alexandre Jolien oui. Avec qui vous venez de signer à nous la liberté, et puis une définition de la méditation qui dit que c'est la faculté d'appréhension totale de la globalité de la vie, de l'année l'action juste. Est-ce que...
Ouais, c'est un peu pompeux, bien ouais. Non, si, c'est juste, c'est exact, c'est un peu, ça fait un peu peur, quoi, quand on présente comme ça.
Vous en auriez une plus simple et moins effrayante à nous offrir.
Ah, bah oui, parce que moi, je suis un médecin, j'aime que les gens aient envie de méditer, donc je leur balance pas des définitions aussi intimidantes, même si, une fois de plus, elle n'a rien de critiquable. Non, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit.
En terminale, vous avez eu un coup de foudre pour Sigmund Freud.
Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que moi, je viens d'une famille où on ne parlait jamais de psychologie. Vous savez, la psychologie, aujourd'hui, vraiment, ça infiltre le moindre de nos raisonnements, mais dans les années 60, quand j'étais gamin, et dans les milieux pauvres, modestes, culturellement, financièrement, on faisait pas de psychologie. C'était, on marchait droit. Quand les gens avaient beaucoup de chagrin, ben, ils picolaient ou ils se suicidaient. Et puis voilà. Et donc, quand j'ai découvert Freud, c'était comme ça dans ma famille, quand j'ai découvert Freud en terminale, vraiment, c'était comme ouvrir une malle au trésor, quoi. Mmh. Comprendre que finalement, derrière nos rêves, nos actes manqués, nos crises d'angoisse, tous nos comportements, il y avait une lecture possible. Et donc, comme Freud, en plus, est un très bon écrivain, comme il a une belle plume, il a été bien traduit en français, c'est un auteur très séduisant. Ça explique une grande part de son succès. Vous savez, le seul prix que Freud ait reçu n'a pas été un prix scientifique, en tout cas je parle des prix prestigieux, mais un prix littéraire. Il a reçu le prix Goethe, qui est le prix littéraire en Allemagne le plus coté, alors qu'il rêvait du prix Nobel, mais c'est un prix mérité. C'est vraiment un conteur hors pair. Alors on s'est aperçu après coup, et moi également, que ce n'était pas un scientifique hors pair, que c'est un homme qui voulait à tout prix réussir, à tout prix imposer ses idées, à tout prix connaître la gloire. Donc il a beaucoup truqué ses résultats, mais il a quand même ouvert une voie, incontestablement. Il a quand même amené à la psychologie des générations de praticiens et aussi le grand public. Donc Je ressens un sentiment de gratitude et de dette envers Freud, même si il y a des aspects sombres de sa personne et de son travail.
En 1995-95, vous publiez votre premier livre, La gestion du stress. J'imagine qu'on ne choisit pas par hasard un tel sujet. Est-ce que vous vous sentiez personnellement concerné par ce sujet, ou est-ce que vous vous disiez qu'à l'aube de l'an 2000, c'était l'un des principaux mots de la société?
Il y avait tout ça en même temps, il y avait tout ça. C'est-à-dire, je crois que ce qui caractérise ma façon d'avoir fait de la psychiatrie, c'est que j'ai vraiment, presque toujours, je crois toujours, on peut le dire, été en grande proximité émotionnelle avec mes patients. J'ai soigné évidemment des patients qui présentaient des troubles qui m'étaient tout de même un peu étrangers. J'ai soigné à un moment beaucoup de patients schizophrènes et délirants, alors que ça, c'est une fragilité que je n'ai pas. Mais finalement, les patients qui me passionnaient le plus et auxquels je crois je faisais le plus de bien, c'était les patients anxieux, déprimés, stressés, soucieux, tout ce que vous pouvez imaginer comme dans le registre de ce qu'on appelle les troubles émotionnels, les émotions douloureuses. Et le stress, bien sûr, m'intéressait autant à titre personnel. Puis j'avais vu mon père se suicider de stress peu à peu avec l'alcool. C'était quelqu'un de très anxieux, très stressé, très déprimé, qui se colmatait avec la bouteille. Et donc j'avais vu quand même le naufrage, la catastrophe. J'en avais vu d'autres autour de moi. Donc, oui, je suis parti explorer la piste du stress, à la fois parce que ça m'intéressait personnellement, à la fois parce que, à l'époque, c'était des patients dont on s'occupait peu. La psychiatrie était plus attirée par les patients qui posaient des problèmes à l'ordre social, les patients violents, alcooliques ou les patients anorexiques qui mettaient la panique dans leur famille, dans leur école, dans leur lycée, mais on s'intéressait peu aux souffrances silencieuses. Les souffrances silencieuses, justement, des gens phobiques, anxieux, stressés, complexés, qui étaient ravageuses également. On s'en est aperçu. Donc voilà, je suis allé vers ces patients à la fois qui me ressemblaient, puis qui étaient abandonnés, qui étaient oubliés.
On va écouter une chanson avant de poursuivre notre conversation. C'est votre choix, Amadou et Mariam, avec Sabali.
Ouais, j'adore cette chanson. C'est là, pour moi, c'est le visage souriant de la mondialisation. C'est beau, c'est poignant, ça parle d'amour. Ce sont deux personnes qui n'ont pas été forcément gâtées par la vie, puisqu'elles souffrent de cécité. Enfin bref, ça me bouleverse infiniment, ouais. Une conversation réussie, pour moi, c'est un moment, une rencontre au cours de laquelle on se sent moins seul au monde. Et tout à coup, un truc se passe et on n'est plus tout seul, on est deux. Et c'est pas si fréquent que ça dans nos vies.
Thank you.
Christophe André, on continue notre conversation chez vous. Vous avez été jeune médecin. À l'époque, vous l'avez déjà dit, une vie un peu de patachon. Vous sortiez beaucoup la nuit, vous profitiez de tous les plaisirs de la vie. Vous portez quel regard aujourd'hui sur le jeune homme que vous étiez, la manière dont vous viviez votre vie alors?
Je pense qu'on fait, ce qu'on peut, et puis ce vers quoi nos pulsions nous poussent.
Non, mais fierté, alors.
Non, je regrette un peu.
Un peu de culpabilité, apparemment.
Oui, je suis culpabilisé parce que j'étais pas très sympa avec
les... C'est vrai?
Avec mon camarade, j'avais mon meilleur ami qui avec qui on théorisait beaucoup sur le donjuanisme. Voilà, là aussi j'ai.
Ah, vous aviez des alibis culturels en plus.
Exactement, on se donnait des alibis culturels, mais ça nous intéressait authentiquement. Ouais. Donc, on a même fait des articles scientifiques, ah ouais, psychiatrie sur le donjuanisme et la séduction, les moteurs de la séduction. Et donc, avec le recul, je comprends que j'ai fait souffrir beaucoup de jeunes filles que nous séduisions et puis que nous laissions tomber rapidement ensuite, même si, il me semble, mais ça n'est pas à moi de le dire, j'ai jamais fait ça méchamment, c'est-à-dire j'ai le souvenir d'avoir toujours pris beaucoup de plaisir à les rencontrer, à les embrasser. Il me semblait que j'étais très respectueux dans les moments où nous étions ensemble.
Mais vous pensiez peut-être un peu plus à vous qu'à l'autre.
C'était absolument égoïste. Je pensais, voilà, mais je pensais aussi au plaisir de l'autre. Mais après, je pensais que c'était fini, quoi, que j'avais envie de passer à autre chose. Et donc, non, je suis pas très fier de cette période, mais sans doute me fallait-il en passer par là pour me calmer ensuite. Je ne sais pas, il vaut mieux vivre ça à 20 ans, c'est ce que j'explique à ma femme. Et voilà, moi j'ai fait ça à 20 ans, donc maintenant t'es tranquille, plutôt qu'avoir une espèce de crise comme ça de milieu de la vie à 40-50 ans, alors qu'on est déjà mariés, femmes et enfants et compagnie. Mais je crois que chacun fait avec ses limites et ses fragilités, il ne faut pas juger ces choses-là.
Et puis vous parliez à l'instant de votre meilleur ami de l'époque, vous avez connu un drame, puisqu'il est mort dans vos bras, vous l'avez déjà raconté, suite à un accident de moto.
Oui, évidemment, on avait la panoplie des donjons de l'époque. On s'était acheté une décapotable, c'est pas très cher, mais très jolie, très rouge, qui faisait beaucoup de bruit au feu rouge. On avait des grosses motos, on partait avec nos grosses motos en vacances, et puis un jour, le drame est arrivé. On était plutôt prudents, on faisait attention, mais là, voilà qu'un bonhomme a tourné devant lui, et il est allé s'écraser contre un arbre. Vous savez, des accidents typiques des motards, vous tombez, vous glissez, s'il n'y a pas d'obstacle, vous êtes juste brûlé, s'il y a un obstacle, vous êtes mort. Parce que si vous arrivez vite, vous avez une section de l'aorte, une hémorragie interne très rapide. Ça a été sans doute, là, à ce jour, en tout cas, la grande ligne de cassure dans ma vie. Ça a été
C'est la fin de l'insouciance?
Oui, ouais. Le tremblement de terre total, la fin de cette période, et tout à coup, un grand coup sur la tête qui m'ouvre les yeux, où je me dis, bon, ok, qu'est-ce que tu fous là? Donc, je suis parti au monastère... voisin de Toulouse, un monastère que j'aimais bien, monastère bénédictin, me passer 15 jours auprès des moines. Je me suis coupé du monde, j'ai disparu, même mes parents ne savaient plus où j'étais. À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc c'était assez facile de disparaître comme ça de la circulation. Et quand je suis ressorti, j'avais changé, sans le savoir encore, mais il était écrit que je ne resterais pas à Toulouse et que je ne resterais pas dans ce type de vie. Ça n'était plus possible sans mon ami.
Vous qui traitez des états d'âme, de vos patients, est-ce que vous croyez à la notion de l'âme?
Ah oui, j'ai écrit un bouquin entier sur ça qui s'appelle Les états d'âme, qui est mon plus gros livre à ce jour, un de mes préférés. Et bien sûr que j'y crois, j'aurais beaucoup de mal à la fois à la définir et à la démontrer, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vit en nous au-delà de notre corps, au-delà de notre intelligence, de notre esprit. Ouais, j'y crois, mais le croire est le bon mot d'ailleurs.
Justement, dans ce livre paru en 2009, vous écrivez « Les hypersensibles disposent surtout d'une vie intérieure très riche, de mondes imaginaires intenses depuis l'enfance. Ils aspirent régulièrement à se retrouver tout seuls pour aller se balader ou lire tranquillement dans leur coin, d'où la fréquence dans leur rang d'artistes et de poètes qui sont à peu près tous des hypersensibles, ce qui en induit quelques-uns jusqu'à la maladie psychique, car il existe aussi une face sombre à l'hypersensibilité, le sur-risque anxieux et dépressif. Est-ce que les hypersensibles sont en général plus doués pour les arts ou est-ce qu'ils s'y intéressent davantage que le reste de la population, ce qui explique leur surreprésentation dans ces secteurs-là ?
Je crois que c'est un mélange des deux, comme souvent hein, dans la vie humaine. Il y a des influences multiples et complexes, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire une grande carrière de politique ou de capitaine d'industrie si on est un hypersensible, parce que d'abord il va falloir marcher sur la tête de beaucoup trop de gens, provoquer beaucoup trop de souffrance, éteindre totalement ses capacités d'empathie. Ça, les hypersensibles savent absolument pas faire. Donc bien sûr qu'ils sont beaucoup plus doués pour les arts que les autres, et qu'on les retrouve surreprésentés dans ce petit monde.
Est-ce que vous êtes croyant, Christophe André?
Je suis un croyant fragile. Ma foi est fragile. C'est-à-dire, j'aime croire, j'aime beaucoup prier. Ça me rassure énormément toutes les fois où je sens que quelque chose en moi me dit oui, non, mais Dieu existe vraiment et il t'aime, etc. Et là où tout à coup je me sens beaucoup mieux. Puis il y a d'autres fois où je doute un peu, je me dis bon, et si c'était simplement une invention des hommes, et là je me sens un peu beaucoup plus angoissé et orphelin. Donc je suis comme beaucoup de croyants. Je n'ai pas la foi du charbonnier, malheureusement, qui est quelque chose qui me semble de l'extérieur assez confortable.
Ça ressemble un peu à un placebo, votre définition.
Ouais.
C'est pas sûr que ça existe, mais ça marche.
C'est le pari de Pascal, de toute façon. Ouais. Vous savez, c'est le pari de Pascal. Pascal disait, au fond, on n'a rien à perdre à croire en Dieu. S'il n'existe pas, on aura cru à quelque chose qui n'existe pas. Mais s'il existe, par contre, là, c'est
ça
vraiment,
aurait été utile.
C'est chouette.
Ouais. Je vais vous emmener au cinéma tout de suite pour découvrir comment les psys y sont représentés.
Moteur.
Si vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédé.
Elle a un problème.
Parlez-moi de la première fois où votre père vous a battu.
Ça m'a excité.
Sexe.
Mal.
Famille.
Enfant.
Professeur Freud, je suis le docteur Jung.
Je trouve que c'est super comme philosophie, Will. Ça te permettra de vivre toute ta vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne. Peut-être que tu crois tout savoir sur tout, vieux, mais ça, la seule façon de le savoir, c'est de tenter le coup. Tu l'apprendras sûrement pas d'un vieux con comme moi. Et même si je le savais, je le dirais pas à un petit merdeux comme toi.
Et pourquoi pas? Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure. Vous parlez plus que tous les psys que j'avais rencontrés avant.
J'enseigne ce que je sais, je ne dis pas que je sais le faire.
Ouais.
Messieurs, fin de la réunion.
Mais bordel de Dieu, il n'y a donc pas un seul de ces cinglés qui comprennent de quoi je parle.
Monsieur McMurphy.
Hein?
C'est la fin de notre réunion.
Et plus ça sera incohérent, mieux ça vaudra du point de vue scientifique.
Vous êtes venu me voir pour que je vous plaigne?
Pas besoin de Sigmund Freud pour comprendre que je ne tiens pas à voir la couleur du sang de mes patients.
Refouler la couleur rouge, c'est refouler l'émotion.
Ouais.
Vous savez que ça peut devenir très dangereux.
Oui, je sais, oui.
Behind locked doors of secrecy and shame lay the answer to one of humanity's great mysteries. Only one man, Dr. Sigmund Freud, had the genius and the infinite courage to unlock those doors.
Une femme est entrée. Elle n'était presque pas vêtue et elle a fait le tour de la salle de jeu en embrassant tout le monde. Elle est venue d'abord à ma table.
Vous la connaissez, cette femme qui embrassait tout le monde?
Eh bien, il m'a semblé qu'elle avait quelque chose de Constance.
Ah, rêve de réalisation d'un désir, tout à fait banal. Continuez.
Alors, est-ce que vous comprenez le sens de mon rêve?
Non, attendez, vous avez sans doute revécu un épisode de votre vie.
C'est Poppy. Vous ne me reverrez plus. Ma dernière séance, je la ferai avec votre répondeur. Oh, docteur, je suis si mal dans ma peau. Je suis une femme dans mon corps d'homme.
Pulsion, avec Michael Caine, Angelic Kinson, Nancy Allen. Le charme maléfique et angoissant d'une névrose qui obéit à ses pulsions.
J'aimerais faire une
introspection.
Une introspection, quoi. Quel sentiment tu ressens? Ça me met en colère, ça me met en colère de savoir ça. Ça me fout la rage.
Oui.
Ça m'a vraiment mis en pétard de savoir ça.
Ok.
Je m'efforçais de
parler de mes sentiments.
De te parler de mes sentiments et
De ma colère.
De ma colère, et cette colère est un...
Un blocage inconscient.
Un blocage inconscient.
Et j'ai vraiment hâte de te voir dans une semaine à cette sauterie,
et je tâcherai de débloquer ce truc inconscient, et là, j'espère que... Envoie-moi encore un de tes mecs, espèce d'enflure, et putain, je te coupe tes putains de couilles, et je te les fous au fond de ton putain de cul. Je t'offre une putain de pierre tombale. Putain, je t'enfonce des piques à glace dans les yeux, je les arrache de leurs orbites, et je les envoie à ta putain de famille qui s'est tapée au dessert.
Est-ce que t'as compris?
Paul.
Quoi?
Va te faire foutre.
Espèce de... Foiré!
Trouve-moi un dictionnaire, regarde à introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Il y en a des choses, hein, au cinéma sur la psy.
Des gens très différents. On a entendu un extrait de Ils sont partout de Yvan Attal avec Toby Nathan dans son propre rôle. Dangerous Method de David Cronenberg. Will Hunting de Gus Van Sant. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Milos Forman. Color of Night de Richard Rush. Fraude passion secrète de John Huston. La maison du Dr. Edwards, forcément Hitchcock. Pulsion de Palma. Et puis à la fin, Mafia Blues de Harold Ramis avec De Niro, un peu énervé. On va dire ça comme ça. Ça a des allures très romanesques, on s'en rend compte, le métier de psy. Est-ce que ça l'est tout autant que ce qu'on vient d'entendre? En tout cas, le cinéma s'y amuse beaucoup.
Ouais, c'est moins spectaculaire et moins drôle, mais c'est passionnant. C'est un chouette métier, qui est un métier difficile, qui n'est pas très gratifiant. Et c'est vraiment... il y a des branches de la médecine où on a des résultats assez rapides, assez spectaculaires, en chirurgie, en ophtalmologie, en dermato, des choses comme ça. En psychiatrie, on récupère en général, et en psychothérapie, des histoires de vie cassées, cabossées, brisées, compliquées. Et donc, c'est rare qu'en quelques séances, on remette les gens d'aplomb. Par contre, on peut beaucoup les aider, et c'est vrai que les moments les plus émouvants de ma vie de médecin, ce sont effectivement ces moments où des patients disent « ben, vous m'avez sauvé la vie, vous savez, je les revois plusieurs années après, ou ils m'envoient un mot, et vous m'avez sauvé la vie ». Et là, gloups, on est quand même, on tombe un peu, on tombe à la renverse, on est plutôt sur un petit nuage, on est très heureux d'avoir pu faire ça, à l'huile de coude, hein, quand même. C'est jamais simple d'aider quelqu'un qui est emprisonné dans ses automatismes, ses répétitions d'angoisse, de vieilles habitudes pathologiques, souvent depuis l'enfance. C'est pas comme au cinéma, quand même, ça c'est clair.
Vous avez amené la méditation à l'hôpital. Est-ce que vous méditez, vous?
Ah bah ouais.
Vous avez médité aujourd'hui?
Ce matin,
tous les matins, du coup, vous êtes organisé de manière
De méditation dans le bureau que j'occupe, près de ma chambre à coucher. Donc je me lève le premier, souvent vers 6h30 du matin. Je vais méditer au moins 10 minutes en semaine. Et alors après, vous savez, la méditation que je pratique, c'est ce qu'on appelle une méditation de pleine conscience. Donc c'est une méditation qui peut se pratiquer par longue période. En général, on recommande de commencer ses journées par 10, 20 minutes ou plus si on a le temps, ce que je fais en vacances, de méditation assise, silencieuse. Et puis plusieurs fois dans la journée, quand vous êtes en train d'attendre quelque part, au lieu de regarder votre portable, voir si vous avez des messages, etc., vous posez, tenir droit, respirer, vous centrer, voir où vous en êtes, regarder ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées. Ça aussi, c'est de la méditation. C'est un acte de présence à soi et au monde qu'on peut multiplier par petits bouts dans la journée.
C'est presque une manière de vivre.
Ça débouche sur une manière de vivre. C'est-à-dire les gens qui viennent méditer viennent nous voir avec des attentes parce qu'ils ont des problèmes à résoudre, ont des souffrances qu'ils veulent alléger. Donc on leur propose d'abord la méditation comme une sorte d'outil, à la fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'apaisement de leurs angoisses, et puis de discernement pour voir un petit peu plus clair dans leur confusion, leur contradiction. Et peu à peu, ils s'aperçoivent que ces outils les amènent à une autre façon de vivre, une manière de vivre en étant plus présent à soi, plus présent aux autres, en se désengageant de ces espèces de courses absurdes dans lesquelles nous amène souvent notre quotidien, ce que nous percevons. percevant comme des obligations familiales, professionnelles et autres. Donc c'est clair que nous, on a atteint notre but, en tout cas on a le sentiment d'avoir atteint notre but lorsqu'on apprend à des patients ou à des élèves, en forme des soignants aussi, lorsqu'on apprend à des personnes en tout cas à méditer, quand elles nous disent « quand même, ça, je vis plus tout à fait de la même façon ». Il y a des tas de petites choses qui ont changé dans ma manière d'écouter les autres, dans ma manière de faire la cuisine, dans ma manière de marcher dans la rue, dans ma manière au fond de m'arrêter, regarder un nuage ou d'écouter un oiseau ou de ne plus être agacé par la perceuse du voisin comme je l'étais auparavant. Ça change effectivement... Beaucoup de choses. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que si vous regardez, la méditation, c'est un truc très simple. Je m'arrête et je me rends présent à ce qui est là. Donc, comment un truc aussi simple, une démarche aussi simple, à l'opposé de, par exemple, les grandes théories psychanalytiques qui remplissent des volumes et des volumes, comment ce truc aussi simple peut changer aussi profondément, pour peu qu'on l'applique régulièrement et avec cœur, avec profondeur, comment ça peut changer aussi profondément nos vies? C'est un petit peu une énigme d'une certaine façon.
Mais la science commence à l'expliquer.
Oui, la science explique les mécanismes.
La neuroplasticité, entre autres.
Voilà, ça modifie toute la circuiterie neuronale à l'intérieur de notre boîte crânienne, ça modifie notre réactivité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on continue d'être très réactif émotionnellement, mais de manière moins aveugle, moins impulsive, moins répétitive. On développe notre intelligence émotionnelle, on sent mieux naître en nous. Les petites perturbations annonciatrices de l'explosion émotionnelle, donc on sait mieux les écouter, on sait mieux les réorienter, on utilise mieux nos richesses intérieures grâce à la méditation. Ça, c'est ça qui est passionnant. Et effectivement, toutes ces études de médecine qui montrent comment ça agit jusqu'à un niveau cellulaire, ça modifie l'expression génique, ça modifie, ça freine le vieillissement cellulaire, sont fascinantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas propre à la méditation. Si vous modifiez l'alimentation de quelqu'un, si vous l'amenez à faire trois quarts d'heure de marche tous les jours, vous avez aussi des modifications, c'est des choses très simples également, comme méditer, vous avez aussi des modifications biologiques très profondes, très spectaculaires. Donc au fond, la méditation, elle fait partie de toute une avancée de la médecine contemporaine qui consiste à comprendre qu'il y a des manières de vivre qui sont ce qu'on appelle salutogènes, qui apportent des bénéfices pour la santé. Et ces manières de vivre, c'est plein de fruits et de légumes, marcher, beaucoup marcher, rire, méditer, ressentir des émotions agréables le plus souvent possible. La vie ne le permet pas toujours, mais chaque fois qu'elle se présente, s'y rendre présent. Et ces comportements, qui sont des comportements au fond très simples et très humains, des démarches très simples et très humaines, sont exceptionnellement efficace pour améliorer notre bien-être mental et physique. Et la médecine occidentale est en train de découvrir au fond ce gisement de source de bien-être qui est à la fois gratuit, écologique, facile finalement. Il faut juste qu'on soit assez pédagogue pour convaincre nos patients de se diriger vers ça.
On va écouter votre deuxième choix musical, c'est Fats Waller, avec un extrait de la BO du film Stormy Weather.
No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. A misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? For
I don't stay out.
Well,
thank you.
No place to go. I'm home about eight, just me and my radio. In misbehaving, saving all my love for you.
Fats Waller, à l'instant, un parcours très douloureux.
Oui, Fats Waller, c'est un génie du jazz. Alors, on l'écoute trop peu, à mon avis. J'espère qu'un jour, son étoile se remettra à briller. Et avec des CV incroyables, des jazzmen, Fats Waller, il est mort, le pauvre, dans un wagon de train. Il se rendait d'un concert à l'autre, je sais pas, entre Chicago, je ne sais plus quelle ville là, de la région des Grands Lacs, en plein hiver. Le système de chauffage de son wagon est tombé en panne. Il avait dû boire, évidemment, un peu plus que de raison, sans doute. Et on l'a trouvé mort, frigorifié dans le wagon, le compartiment, le lendemain matin. Enfin, c'était des histoires tristes, souvent, comme ça, tous ces grands jazzmen. Mais alors, j'aime beaucoup Fats Waller. C'est mon voisin, Jean, qui est mon voisin aujourd'hui décédé, qui habitait derrière le mur, là, auquel vous êtes adossé, dans la région voisine. Et qui m'avait offert un coffret de tous les vieux 33 tours vinyles de Fats Waller et que j'ai écouté en boucle pendant plusieurs semaines lorsqu'il me l'a offert. Et j'apprécie beaucoup ce bonhomme. Oui.
La plus belle conversation de votre vie, c'était quand et avec qui, Christophe André ?
Ah là là, vous me posez des questions.
C'est fait pour. Hein.
J'ai eu des conversations émouvantes. Alors, je me souviens, un jour, j'étais allé en Inde avec Mathieu Ricard. On avait rejoint à Dehradun, c'était dans le nord de l'Inde, un monastère bouddhiste avec des tas de Tibétains en exil. Et il m'avait présenté un de ses vieux maîtres, un lama. Et donc c'était un privilège exceptionnel de rencontrer ce très vieux monsieur qui tenait à peine assis en position du lotus, qui était très fragile. Et donc on avait bavardé un quart d'heure je lui posais des questions que Mathieu traduisait, il traduisait ses réponses, et sur justement pourquoi les Occidentaux se suicident autant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, que les bouddhistes ont peut-être compris. Donc cette conversation m'avait émerveillé par ça, à la fois le côté très solennel, très exotique, c'était un peu Tintin au Tibet quand même, l'ambiance, mais aussi la simplicité, la pertinence de ce bonhomme, quoi, qui n'était pas psychiatre, mais qui évidemment avait pigé beaucoup de choses sur la nature humaine, et puis des conversations avec des copains lors de balades, comme ça, où tout à coup on sent qu'on est au cœur de ce qui importe dans une vie humaine. On est dans une proximité avec un autre humain que soi, et on sent cette espèce de fraternité. Moi, je suis très sensible à ces moments de fraternité. C'est finalement une des grandes souffrances de l'être humain, c'est la ce que les philosophes appellent d'un terme un peu pompeux la solitude ontologique. On est quand même irrémédiablement seul. Personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut souffrir à notre place, personne ne pourra mourir à notre place. S'il y a une belle chanson de blues, je crois qu'elle est dans le film Oh Brother des frères Cohen, la bande originale de ce film est magnifique. Dans un de ces chants-là, chanté par les esclaves autrefois, il y en a un sur la mort. Et le type dit à un moment, bon, tu vas mourir, et puis là où tu vas aller, personne ne pourra aller à ta place. Bon, et donc on est seul quand même dans la vie. De la naissance à la mort, d'une certaine façon, on est vraiment seul à affronter les choses importantes. Et à certains moments, ce sentiment de solitude se brise et on se sent immensément proche des gens qu'on a en face de soi, qu'on a avec soi, qu'on a dans ses bras, avec qui on discute. Et là, tout à coup, voilà, il y a une sorte de frisson, d'extase qui nous traverse. Et ce sont ces moments que j'apprécie beaucoup. Alors, je n'en tiens pas la liste exacte et donc j'aurais du mal à vous donner davantage de détails, mais oui, ils existent dans ma vie. In constant sorrow.
On arrive au terme de cette conversation. Merci beaucoup.
Merci
de nous avoir reçu. Pour en savoir plus sur vous et vos ouvrages, je renvoie vers votre site internet qui s'appelle christopheandré.com. Il y a aussi votre blog pour vous lire au quotidien, psychoactif.blogspot.com, psychoactif.blogspot.com. Et puis je rappelle vos dernières parutions. Un entretien, un échange avec vos amis, le philosophe Alexandre Jolien, le moine bouddhiste et photographe Mathieu Ricard. Ça s'appelle « À nous la liberté » chez l'iconoclaste Alary Édition. Il y a mon programme anti-dépression aussi, et puis vos rubriques diffusées sur France Culture ont été éditées. « La vie intérieure » dans sa version écrite, mais aussi avec le petit CD audio à la fin, ce qui permet de retrouver la voix vers votre voix. Je vous propose de conclure en musique avec, c'est votre dernier choix, la suite pour corde numéro 3 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup.
Merci.
Une conversation réussie pour moi, c'est un moment, une rencontre au cours de laquelle on se sent moins seul au monde. Et tout à coup, un truc se passe et on n'est plus tout seul, on est deux. Et c'est pas si fréquent que ça dans nos vies.
Vous venez d'écouter la conversation aujourd'hui avec Christophe André. La réalisation était d'Alexandre Lemierre. Pour écouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, je vous laisse avec cette pensée de Nancy Houston. La prière, c'est un peu comme une conversation privée entre soi et Dieu, sauf qu'on n'entend pas les réponses.
L'amateur de souffrance. C'est le titre de la nouvelle bande dessinée de Patrick Mallet. Dessin précis, à la fois sobre et détaillé, scénario talentueux où l'historique côtoie le fantastique, le premier tome de cette trilogie intitulée Les Sansons a de quoi titiller les amateurs de BD. Patrick Mallet sera l'invité de Né à Né le samedi.